La première vérité, dukkha, c'est cette réalité de l'impermanence qui fait que parfois l'expérience est douloureuse. Et si nous avons complètement compris que ça se passe comme ça, nous pouvons nous reposer dans une énergie sage qui fait que le cœur peut être ouvert et compassionné, et qu'il n'y a pas cette réactivité qui nous ferme sur une forme d'égocentrisme douloureux pour moi, pour les autres. En tout cas, cette première vérité doit être comprise de mieux en mieux, c'est-à-dire vraiment vérifier dans le corps, sentir comment c'est difficile d'accepter que les choses changent, surtout quand elles changent du mieux au moins bien. C'est donc un aspect ou une manière d'approfondir notre sagesse pour considérer les choses d'une manière plus détendue et universelle, interconnectée. Nous avons tous cette expérience de l'impermanence qui nous met au défi parfois. Une autre manière d'approfondir le chemin pour nous libérer, c'est ce qu'on appelle tanha, la soif, et c'est la deuxième vérité noble. Et elle est noble parce que lorsque nous apprivoisons à l'intérieur, dans l'instant, cette émergence de cette forme d'instinct puissamment ancré, de désir pour avoir ce qui nous convient et pour rejeter ce qui nous semble non bénéfique et qui est douloureux. Le résultat est le même que lorsque nous comprenons dukkha, lorsque nous comprenons l'impermanence. En même temps, nous abandonnons cette soif ou ce désir, cet attachement. Et lorsque nous abandonnons cette soif, cet attachement, naturellement, il y a aussi une plus grande compréhension de dukkha. Je ne sais pas si maintenant il y a une forme de résistance ou de désir pour quelque chose. Nous entendons avec nos oreilles et nous comprenons avec notre intelligence, mais aussi nous vérifions dans l'expérience quand et comment tanha émerge et quand et comment tanha disparaît, quand c'est là, quand ça n'est pas là. Le Bouddha a parlé de trois aspects de tanha, un aspect plus concret, extérieur, ce qu'on appelle les huit attachements du monde, au monde, et deux aspects plus fondamentaux, le besoin d'existence et le besoin de non-existence, qui tous les deux ont pour objet un des aspects de ces attachements mondains. Et ces huit attachements, c'est d'abord le plaisir, Nous avons une soif de plaisir et la peine. Nous avons un rejet de ce qui est non plaisant. C'est la réussite et l'échec. C'est la reconnaissance ou la louange et le blâme ou le mépris. C'est le gain et la perte. Le plaisir et la peine à tous les niveaux engendrent la soif. Par rapport à la nourriture, combien la nourriture est importante, combien elle est subtile. Nous sommes attirés par ce qui est plaisant pour le palais. Et lorsque quelque chose de mauvais touche le sens du goût, la réaction spontanée et instinctive est de cracher, de vomir. C'est puissant. Au niveau du plaisir et de la peine, mais aussi au niveau du besoin d'existence et de la peur de la non-existence, vraiment manquer de nourriture pour que le corps vive et être follement attaché à manger simplement pour survivre. C'était intéressant durant le corona, en tout cas pour moi, de voir comment le lien à la nourriture physique pour le corps est devenu précieux. Il y avait quelque chose de plus fin, délicat, je donnais plus de soin à la manière avec laquelle je me nourrissais. Je ne sais pas, vous. Le plaisir et la peine à tous les niveaux, nous pouvons le constater. C'est tout à fait normal que nous aimions le beau temps, que nous aimions moins quand il pleut, que nous aimions quelque chose que nous voyons qui est agréable, un film ou une image harmonieuse, et que nous ayons de la peine à voir une image douloureuse. Il y a des images que je ne peux même pas imaginer créer parce que c'est trop, c'est dur, c'est pénible à voir. Les sons, pareil. La musique peut nous mener dans des délices très profonds. Et combien c'était bon de ne plus avoir le bruit des avions ou des voitures trop souvent pendant ce temps de déconfinement, de confinement. Pour le moment, ça n'a pas encore recommencé. Les avions, on a toujours le ciel bleu. En tout cas, ce matin, voilà, c'est de nouveau après la pluie, ce ciel bleu, et je vois le plaisir, l'appréciation, l'esprit qui est détendu et ouvert. Et le plaisir et la peine au niveau interrelationnel, la reconnaissance de l'autre ou l'appréciation qui fait du bien, qui nous remplit de joie. Et au contraire, l'hostilité ou la mise à distance, le jugement de l'autre, combien ça crée du rejet, de la du doute, de la tristesse. Nous pouvons nous laisser sentir, il n'y a rien à changer, mais vraiment sentir ce pouvoir de Tanha sur le corps et l'esprit. La louange et le blâme. Ou la réussite et l'échec, c'est un peu différent, c'est plus lié à des situations ou des conditions. Nous aimons lorsque nos projets, nos efforts, nos même le karma est du bon karma, de la réussite. Pas seulement quand nous passons un examen ou quand nous avons un but à atteindre, mais même dans les petites choses de la vie. Et combien l'échec est douloureux, est touche à un sens profond ou un besoin profond d'une réalisation à l'extérieur. Nous avons besoin de réussite et nous avons peur de l'échec. Non seulement aux yeux des autres, le regard des autres est très... Nous sommes très vulnérables au regard des autres. Il a beaucoup de pouvoir sur notre ouverture dans l'instant. Ça peut engendrer beaucoup d'inquiétude, de stress, de doute existentiel. Et il suffit que quelqu'un ou quelque chose se soit passé bien, que j'ai l'impression d'avoir fait tout juste pour que l'énergie tourne et que tout à coup, waouh, tout s'ouvre, tout se détend, tout est à sa place, semble-t-il. Nous avons l'impression d'être dans la cible. Le gain et la perte à être aussi exploré, ressenti, c'est vraiment étonnant. Le besoin de gagner, on n'en a jamais assez. Tout le monde apprécie d'avoir un peu plus d'argent, un plus bel appartement, des habits plus confortables, ceux que nous aimons, des loisirs plus raffinés. Au niveau culturel aussi, nous aimons avoir beaucoup, un bon bagage. Et le contraire nous désole un peu. Nous sommes tristes, accablés de ne pas pouvoir avoir, même si nous avons suffisamment, avoir plus ou beaucoup. Et quand nous avons, combien c'est difficile d'avoir moins, de lâcher. C'est cette fragilité de nos conditions sur cette planète. Le besoin d'existence et de non-existence, c'est lié à cet attachement et à ce rejet. Nous voulons, nous avons besoin d'être vus, d'exister, de prendre une place, d'être important, d'être reconnu, aimé. Et nous avons peur du contraire. Nous avons peur de disparaître, que personne ne nous apprécie, que nous ne soyons rien, non pas ce rien lié à la conscience universelle, mais ce rien du moi qui aimerait être beaucoup et qui n'est rien. la peur du vide. Et dans ce qu'on appelle vibhava tanha, ce besoin de non-existence, de non-devenir, je ne veux pas ou je ne peux pas prendre ma place, sentir les moments où l'énergie se rétracte, non pas dans un bel abandon des conditions du monde, mais dans un besoin de non-existence, dans un besoin de vivre petit. Je n'ose pas. Ça n'est pas de l'humilité, c'est de la résignation, au fond de l'attachement au moi, mais en creux. Et selon les personnalités, nous avons plutôt tendance à vouloir exister ou à être dans l'ombre. Mais quelle que soit notre personnalité, il y a des moments où nous avons ce besoin d'être, cette soif de vouloir paraître ou cette soif de vouloir disparaître. Le Bouddha a parlé de ces différents aspects en nous encourageant à les abandonner. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne vont pas émerger, mais ça veut dire que lorsqu'ils émergent, la sagesse les met à leur place. Ok, juste maintenant, il y a ce besoin d'existence, j'aimerais faire bien. L'autre me porte une part du fardeau, je ne peux pas la porter toute seule, alors le fait d'être connue permet de me détendre, le fait que l'autre me reconnaisse. Et c'est une forme de dépendance, de prison, que nous pouvons d'abord voir, nommer, donner du soin, bien rencontrer, accepter. Et tranquillement, l'abandon peut prendre place. Nous n'avons plus besoin de faire référence à Tanha parce que nous avons vu combien c'est vain, combien c'est inutile. Et combien nous nous emprisonnons nous-mêmes en croyant qu'à travers cette croyance que si je réussis, je suis bien, que si j'échoue, je suis mal, que si je donne l'importance au plaisir, toute l'importance au plaisir et toute l'importance aussi, la non-valeur au déplaisir, toute l'importance au gain et à la perte, non, surtout pas ça, à la louange, au blâme. Nous commençons à comprendre que c'est vraiment la souffrance. Au moment où il y a l'émergence de Tanha, il y a la non-compréhension de ce qu'est Dukkha. Et tranquillement, nous sommes en paix avec l'instant tel qu'il est. Et au lieu que nous fassions durer l'énergie de Tanha, nous voyons qu'elle émerge et l'abandon peut avoir lieu. Ah, c'est ce besoin de réussite. Ok, je te connais, ça lâche. Oh, là j'aurais tellement besoin d'être vue, il ne me regarde pas. Ok, c'est Anra, ça lâche. J'avais envie de donner un morceau de gâteau et puis Yatanha, j'ai pas donné. Ok, j'ai manqué le coche cette fois, mais je ferai mieux la prochaine fois. Tanha a émergé et j'ai abandonné. Mais, et c'est toute la différence, j'ai vu. J'ai vu, j'ai ressenti, et notre intention est claire. Ça n'est pas là que nous voulons aller. C'est tellement plus bénéfique, ça fait tellement de bien d'ouvrir à la non-peur, à la non-avidité, au lâcher prise de cette fermeture sur moi et mes besoins, mes envies, mes attachements. C'est tellement plus précieux de lâcher ces choses du monde. Et nous vivons dans le monde avec tout ça qui émerge parfois, et nous pouvons le voir chez l'autre. L'autre est sous l'emprise de Tanha. Et alors, au lieu que nous, soit que nous suivions le mouvement, parce que nous avons besoin de vivre ensemble et d'avoir les partages autour de la vie, nous aimons partager. Au lieu de succomber à cette souffrance de Tanha que l'autre manifeste et d'aller dans sa direction, ou de nous ériger en juge et de rejeter l'énergie chez l'autre, alors la compassion est là. Juste maintenant, il y a Tanha. Et c'est dukkha. Il y a cette soif et ces souffrances. Alors nous sommes libérés par la présence et par la sagesse de ces énergies qui créent des actes et des paroles aveugles et porteuses de souffrance. Ces deux vérités n'ont rien à voir avec quelque chose de pessimiste ou de négatif du tout. Mais l'attachement Tanha, lorsqu'il y a la réussite ou la reconnaissance ou le gain, tout va bien. Nous n'avons surtout pas envie de voir qu'au moment où ces bienfaits, ce sont des bienfaits pour le moi, au moment où ces bienfaits nous sont enlevés, c'est là que nous voulons bien volontiers voir parce que nous souffrons. On a demandé au Bouddha qu'est-ce qu'il avait découvert à travers toutes ces années de pratique, de quête intérieure. Il a dit, oh, j'ai rien découvert du tout, mais je sais ce que j'ai abandonné. J'ai lâché l'inquiétude, j'ai lâché l'avidité, la convoitise, j'ai lâché la peur, l'angoisse, la colère. Et lorsqu'il y a cet abandon de Tanha, de la réactivité ou de l'attachement, ce qui reste, c'est le cœur de l'être, ce qu'on ne peut pas nommer, mais qu'on a des mots qui approchent, la paix, la confiance, la joie pour rien. Et l'ouverture à autrui. le partage, la fraternité. Le lien, le sentiment d'appartenance aux autres, mais aussi au silence, à l'espace. C'est donc important de reconnaître et de pouvoir dire, ça n'est pas mon problème. Mais quelquefois il y a tanha, tout comme quelquefois il y a dukkha. Ou de questionner, eh bien maintenant il n'y a pas dukkha, il n'y a pas tanha. Ou dans une moindre mesure. Et tout ça commence par quelque chose de très simple, c'est la présence au corps. Dans l'assise, la présence corporelle permet d'abandonner le tanha conceptuel. Il y a une soif de futur ou de passé, nous avons de la peine à nous poser dans le présent. Et au quotidien, nous pouvons chaque fois faire acte de présence lorsque nous sentons ce que nous faisons, un objet que nous prenons, la sensation de nos pas au sol, lorsque nous tournons la clé pour mettre en marche notre voiture, lorsque nous ouvrons un robinet ou une porte, ou la posture corporelle, je sais que je suis assise, je sais que je suis debout, couchée. À ce moment-là, il y a une absence de tanha. À ce moment-là, il y a juste ça. L'expérience dans l'instant. Et elle arrive et change, elle arrive et passe, elle arrive et passe. Et nous employons la présence, la pleine conscience pour ici et maintenant abandonner tanha. Peut-être que vous pouvez sentir quand je serre le poing ou quand j'ouvre la main. Au moment où je ressens vraiment la main qui s'ouvre, il n'y a pas de tanha. Il y a une main qui s'ouvre. Et alors nous avons le goût de cet abandon de l'aveuglement. Et c'est la libération. Faut juste le faire. Et nous nous encourageons les uns les autres à le faire.